sujet qui était sur les virus au sens large et le sida. Donc, je vous ai plusieurs fois la question pour savoir de quel type de virus vous voulez que je vous parle. Je ne vais pas parler uniquement du sida. Sida, c'est un sujet que je connais
La
bien
formation tout au long de la
depuis
vie,
les années 80 maintenant.
Ça y est, je veux
Mais
dire,
un
tout
autre
le monde
sujet
est
aussi qui me tient
convaincu,
à cœur
toutes
et
les parties sont
certains que ça vous
convaincues
intéressera, qui
que
est
c'est
celui de la grippe.
incontournable. Alors, certains ont déjà compris
Puisque le
depuis
sujet de
longtemps
la grippe
et
est revenu
sont convaincus aujourd'hui que
et
c'est un
d'actualité
axe
depuis une semaine.
stratégique
On
pour
parle beaucoup de
l'entreprise
grippe
que de former
mexicaine
les
ou
collaborateurs
porcine, ce qui
tout
ne
au
veut
long
pas
de
dire
la vie,
grand-chose.
et j'allais dire
Et je vous en
tous les
parlerai si vous voulez un petit
collaborateurs
peu
tout
à
au
la
long de
fin
la vie. Donc ça, c'est
de ce
extrêmement
topo.
important.
Donc, je pense en termes de virus, vous avez déjà étudié
ensuite,
ce qu'étaient
de
les virus. Les
réfléchir
virus, ce sont
à
des
des
êtres
moyens beaucoup plus dynamiques,
unicellulaires qui ont
parce que
besoin de cellules de
parler de
l'organisme d'être
modification
vivant,
d'évolution
que
des
ce soit
contrats de travail,
des hommes ou des
parler de
animaux, pour
la
pouvoir
flex
se
sécurité ou
reproduire.
flexisécurité,
Dans un
tous
premier temps,
ces
je vais vous
sujets
parler
nous
du
ramènent à
VIH. Vous
l'information.
savez que le VIH, c'est un
Tout
gros
converge
problème
vers
de
la
santé
nécessité
publique.
D'avoir le
VIH,
souci de la
l'on
meilleure
connaît
formation
actuellement
possible et du
deux
meilleur
virus, deux types
maintien
de virus,
ou
le 1 et le
évolution
2.
des compétences
Mais
des
sachez que pour
collaborateurs tout
chaque
au long de leur vie
virus, il
professionnelle.
existe
Donc,
des
lui, c'est un sujet
milliards
essentiel.
de souches virales
Aujourd'hui, le
différentes.
souci pour les
Et
entreprises,
vous
c'est de
comprendrez qu'il y en a
réfléchir
des
à la manière
milliards
de mieux
de souches
utiliser les fonds,
différentes. C'est la raison pour laquelle on
soit
a du mal
d'investir
aujourd'hui
plus, parce
à
qu'il y a
trouver un
toujours un
vaccin
retour sur
efficace
investissement
en
quand on investit
prophylaxie de
sur
cette
la
infection.
formation, soit
Donc,
d'investir
le VIH1 a été
mieux
découvert
pour ceux qui
en
investissent déjà beaucoup
1983, au
et qui ne
7e équipe
peuvent pas
française qui a découvert ce virus,
démultiplier
ainsi que
indéfiniment
Pasteur,
le coût de la formation.
De façon
Mais oui,
concomitante avec
je suis tout à fait
les
persuadée
Américains. Le premier patient
ça
qui
y
était
est,
infecté par le
la prise de
VIH, si on a
conscience
découvert ce virus,
est
c'est un
acquise
patient
hein,
qui
et la crise
était à
montre
la clinique Saint-Étienne
l'importance
dans
qu'il
l'accueil
y
d'un
a à
bâtiment
remettre la
des
formation au
maladies
cœur des
infectieuses.
dispositifs des
Et il y avait
entreprises.
eu un médecin qui
Donc
s'appelait
ça, la
William
prise de
Lindbaum à
conscience est
l'époque, qui
faite.
avait prélevé
Aujourd'hui, il
un
faut
grand
trouver le
million, hein,
moyen
ça nous
soit
coûte
de
un grand
dépenser
million,
mieux, soit de dépenser
pour
plus de manière
l'analyser. Et
intéressante
on
pour
avait retrouvé
toutes les
un virus
parties, je
nouveau
dirais,
que l'on ne
que ce
connaissait
soit
pas.
les
Et les différentes
salariés,
études ont permis
les
de
entrepreneurs,
découvrir
mais aussi
ce
la
qu'on appelait plus tard
société
le VIH1.
tout
Au début, on
entière.
appelait ça le
Et la
HTLV1,
modernisation de la formation, elle
le
devrait aussi
HTLV1,
toucher à notre
qui a
sens
été rebaptisé plus
l'éducation
tard.
nationale,
C'était du LAV1,
qui,
on a pensé que c'était un
de
virus
notre point de vue,
d'origine
devrait
des singes, puis
promouvoir
ça a
depuis
commencé à penser que c'était un virus
le plus jeune
humain.
âge hein,
Deux, trois
toutes
ans plus tard, on a
ces
retrouvé un autre virus qui
techniques
était
et tous
le
ces
cousin, qui
moyens
était le
d'apprendre
VIH2,
qui sont
qui se
tellement
retrouvait
intéressants et
celui-ci
adaptés aux
plutôt
nouvelles
en Afrique
générations
de l'Ouest,
qui passent
qui
leur
était
temps à
découvert
utiliser les
également
nouvelles
par une équipe
technologies. Donc pourquoi la
française
formation y
de l'Institut
échapperait
Pasteur.
dès le plus jeune âge?
Comment on
Voilà.
s'est aperçu qu'il y avait un virus un peu particulier dans les années 80 à San Francisco? Je ne sais pas pour si que vous connaissez un peu les
Alors, la question
États-Unis.
est
San
difficile
Francisco,
parce
c'est une
que,
ville
comme
qui
je le disais
était
tout à l'heure,
particulièrement occupée
la
par
taille des entreprises, les secteurs
des
d'activité
personnes
sont extrêmement
homosexuelles, une forte
différents.
communauté
Et c'est
homosexuelle
vrai que si on
à
prend
San
le DIF, par
Francisco
exemple, qui
et
avait été
dans les
vraiment
hôpitaux de
pensé
maladies infectieuses à San
plus pour les
Francisco, ça se
PME,
savait petit à petit qu'il y avait
on
certaines
voit
pathologies
qu'aujourd'hui, dans les
infectieuses
entreprises et dans les
pulmonaires
grandes
assez
entreprises,
inhabituelles
ce n'est pas toujours évitant
qui
d'ajouter, entre
nécessitaient la
guillemets, à
prescription de
l'investissement en
médicaments
formation qui
dont
existait
personne n'avait
déjà,
l'habitude
le
de
DIF.
les
Donc
utiliser, qui
aujourd'hui,
étaient
toute la
commandés aux
réflexion porte
pharmacies
sur la
centrales
possibilité
des hôpitaux américains.
à
Et
partir de
c'est
l'obligation
en
du DIF,
commandant avec ce nombre
repenser
important
le
de
plan de
commandes de
formation,
médicaments pour
le penser de
ces
manière
atteintes
plus équitable,
pulmonaires,
hein,
que
puisque
vous avez aperçu qu'il y
finalement,
avait une nouvelle épidémie qui
dans
apparaissait
quelques entreprises ou dans un
plutôt
certain
chez les
nombre
homosexuels.
d'entreprises,
Donc au début,
on
on
se
pensait
rend
que c'était une
compte,
maladie uniquement
en étudiant
homosexuelle,
les chiffres et la
qui
manière dont
détruisait
s'investit le budget
des globulement qui
formation,
s'appelait
qu'il
des
y
nymphes.
avait des catégories de population qui échappaient
Donc
finalement à la
petit à
formation,
petit, on
même
s'est
quand
aperçu que
l'entreprise
c'était
investissait
un virus
beaucoup.
qui était
Donc
responsable
l'objectif et le
de cette
souci aujourd'hui
infection, qui détruisait la
des partenaires
faucille, qui
sociaux au sein de
détruisait le
l'entreprise
système
et donc des DRH ou
immunitaire.
des
Je pense
départements
que c'est pour
formation,
terminer avec déjà
c'est
vu
de réfléchir à une
ce
meilleure
problème
répartition
des
de
patients
ce DIF
infectés
et
qui
une meilleure
présentaient différentes
utilisation également
maladies
du
au fur et à
plan de
mesure
formation,
de leur
l'intégration
évolution.
de cet outil
Puis,
dans le plan de
le temps
formation.
passant,
Si on prend le
on a un
CIF,
peu
le
découvert
CIF, c'est un
rapidement le
outil qui est
virus.
extrêmement
On a
utilisé dans les
découvert un
entreprises
premier
par les salariés.
traitement
Alors là, il
qui
est
s'appelle
complètement dans la main
AZT
des salariés, je dirais,
en
même si l'entreprise peut accepter ou
1988.
refuser, mais là, c'est plus
C'est un
une
médicament
acceptation ou un refus
issu
de principe dans
des
un délai de
saumons,
temps,
du
parce
sperme
qu'à
des
terme,
saumons
il
qui
n'a
marche
pas
un peu
cette
contre le
capacité,
virus.
et que c'est
Traitement
vraiment
très
un outil
compliqué,
très,
parce qu'à
très
l'époque,
intéressant
prendre le
pour ceux
médicament
qui
coûtait
visent
4 euros. Vous
soit une
imaginez,
reconversion,
6 traitements, 6
soit
fois
une
par
vraie
jour,
formation
un
diplômante
traitement,
longue. Hein,
avec
donc
le
ça, c'est un
brevet,
outil qui est
l'habilitation, on
intéressant et
parle
qui
de
est
ça,
vraiment
c'est un
beaucoup
petit peu
sollicité. Quant à la
problématique.
VAE, on
Puis,
sent
le
vraiment
temps
qu'il y a
allant, on a
un
trouvé
changement qui est en train de se mettre en
différents
place dans les
médicaments
entreprises,
que
mais
l'on a
aussi
commencé à associer pour
auprès des
celle de
partenaires de
95,
l'entreprise, parce que la
96,
VAE,
et qui est à partir de
nous
cette
l'attendions depuis
période-là
longtemps et nous la
que les
sollicitions,
patients ont
nous
commencé à être
rêvions de pouvoir
traités
l'utiliser depuis
correctement
longtemps pour
contre
reconnaître les métiers de
l'infection par le
l'entreprise, et
VIH. Et ça, je
aussi
vais vous en parler
la part
après. C'est ce qu'on a
d'apprentissage
appelé les
et
prix thérapeutiques,
d'apprentissage au
que les
sens le plus
associations
noble
de
qu'il y a
d'au
dans
moins trois
l'exécution finalement
molécules.
d'un métier
Par la
tout au
suite, on
long,
en a associé
enfin, en
4,
tout cas
5,
durant
6,
un certain
voire
nombre
30,
d'années,
enfin, j'exagère un peu,
et de l'impact
voire
aussi de la
8 ou
formation
9
tout au long de la
pardon,
vie,
chez certains patients
et
pour
il était
les
difficile
améliorer.
De trouver les bons
et
partenaires,
puis,
les partenaires disponibles. C'était un processus vécu comme étant extrêmement lourd et compliqué à mettre en œuvre. Je pense que ça se débloque de manière très nette. Et ça, pour nous, c'est un véritable plus.
Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'autres Français qui ont travaillé sur le sujet.
Alors, la
en
formation
de,
est un enjeu majeur. Et c'est vrai qu'elle est plutôt pensée sous le mode
on vous en parle
un
pour le virus de la grippe
formateur
pandémie,
et un groupe de formés. Mais de plus en plus, on se rend compte que, d'abord, dans les entreprises de petite taille, on n'a pas toujours la masse critique qui va bien pour organiser une formation ad hoc, classique. Donc ça, c'est important. Les horaires décalés, enfin bref, pour plein de raisons d'organisation et de masse critique, on se rend bien compte que la formule n'est pas forcément idéale. Alors, les réflexions sur l'e-learning et les nouvelles technologies de l'information sont en cours depuis très longtemps et nous avons mené pas mal d'études à travers la NDRH sur ces sujets qui nous tiennent à cœur, soit pour la modernisation de la fonction ressources humaines, mais aussi pour le recours à la formation à distance. Alors, c'est un paradoxe parce que la formation à distance, je pense au CNED, existe depuis extrêmement longtemps. Elle a été sous le format échange papier de cours et de correction de travaux, etc. Et puis elle s'est fortement modernisée.
Bien évidemment, tous les pays ne sont pas
déjà,
égaux.
Déjà, ça suppose que l'entreprise se soit dotée de moyens techniques. Donc là, on revient toujours au même sujet. Les entreprises sont tout à fait inégales en termes de moyens, en termes de connaissances, parce qu'il faut déjà connaître. Il faut se libérer un peu de la peur, peur parfois de la méconnaissance, ou se prendre le temps de s'informer. Donc du coup, on doit s'informer demain et c'est toujours différé. Donc ça, c'est important. L'investissement technique peut paraître effrayant pour une entreprise. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la normalisation et l'équipement de quasi toutes les entreprises de moyens informatiques, ça risque de changer très sérieusement ce recours. Et on a bien vu, lors des auditions qui ont été menées dans le cadre des tables rondes sur la formation professionnelle, que nous passons d'entreprises qui ont 40 à 50% de la formation qui est mise en œuvre au sein de l'entreprise, qui passe par les nouvelles technologies, à rien du tout. On voit bien que les entreprises sont très inégales et que finalement l'e-learning existe. Mais pour finir sur le sujet, je pense que, enfin en tout cas nous, association de DRH, nous sommes particulièrement sensibles à participer à la diffusion et une meilleure connaissance de ces moyens de formation à distance. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes d'accès, de disponibilité, de souplesse au sein des entreprises. Et on est en train de réfléchir à un partenariat avec un grand développeur de réseaux d'accès, etc. Bon, je ne peux pas en dévoiler le nom aujourd'hui, mais nous sommes en train de réfléchir à un partenariat très significatif avec des grands prestataires informatiques et
technologiques.
La promotion, elle passe toujours par les mêmes voies.
Il y a
la communication au sens classique, faire savoir, permettre d'éveiller la curiosité. Mais sinon, c'est les témoignages. Donc le témoignage des entreprises qui utilisent la formation à distance et qui l'utilisent dans des métiers ou pour des types de formations auxquels on n'aurait pas pensé en matière de formation à distance, c'est vrai que ça donne à réfléchir au DRH, ça donne à réfléchir au chef d'entreprise, et du coup, ça permet de dépasser les a priori qui sont autour des investissements financiers, combien ça va me coûter, et en termes de simplicité d'utilisation, et puis quels sont les organismes, comment qui solliciter, et puis aussi avoir des garanties sur le retour sur investissement.
La plupart des
parce qu'il y a aussi tout un certain nombre de craintes sur est-ce que la personne aura bien participé, oui, non, enfin bon, bref, toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur ce type. Mais donc, l'information passe, comme je disais, par deux voies, l'information classique et les témoignages d'entreprises qui ont recours à ce type de moyens et qui peuvent faire la démonstration que c'est possible.
Et puis, il y a les professionnels de santé qui ont été tributaires. Malheureusement, de ce type d'infection en se piquant, comme les chirurgiens en bloc, les infirmières avec des aiguilles, les médecins, etc. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que, moi je ne m'en suis jamais occupé, mais malheureusement en France, il y en a beaucoup, il y en a encore plus en Afrique, un certain nombre d'enfants, de bébés, ont été contaminés par le VIH in utero, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre de leur maman, avant l'accouchement. Les mamans ont été infectées, ont transmis le virus au bébé. Alors généralement, c'est dans les semaines, les toutes dernières semaines précédant l'accouchement, ou au moment de l'accouchement, vous pourrez comprendre qu'il y a un mélange du sang du bébé et du sang de la maman, avec un passage du virus à ce moment-là. Et puis, une grosse transmission, c'est l'allaitement. En Afrique, je vous rappelle, on n'a pas du lait concentré, on n'a pas du lait en poudre, et la maman qui allaite son bébé lui transmet aisément et facilement le VIH. En termes, c'est juste quelques statistiques que je vous ai mises là, qui viennent de l'Institut de veille sanitaire, assez récentes. Vous voyez que sur les modes, la découverte du VIH selon le mode de contamination dans les dernières années, c'est essentiellement sexuel. Alors, hétérosexuel, on va voir comment, et homosexuel. Homosexuel, c'est plutôt des hommes blancs dits caucasiens qui vivent en France, ou en tout cas des gens qui vivent en France. Et les hétérosexuels, c'est plutôt les personnes qui arrivent d'un pays étranger et qui viennent s'installer en France, ou qui sont malades en arrivant en France, vous voyez, surtout essentiellement des femmes qui viennent d'Afrique, puisque la France est un pays qui attire bien évidemment des gens francophones, et donc beaucoup de personnes d'Afrique, comme le Mali par exemple, à la Pitié, on avait énormément de femmes et d'hommes hétérosexuels chez qui on découvrait une sérologie VIH, parce qu'ils arrivaient en France malades, sans le savoir. Hein. En termes de découverte de séropositivité par rapport au sexe, vous voyez que les femmes étrangères, plutôt d'Afrique subsaharienne, sont beaucoup plus fréquemment infectées par le VIH. On découvre beaucoup plus fréquemment en tout cas une sérologie VIH chez ces femmes que chez les hommes des mêmes pays. La femme étant plus facilement infectable, malheureusement, par ce VIH. C'est à Paris, bien évidemment, qu'on en trouve le plus. C'est dans la région parisienne qu'il y a le plus de patients chez qui on découvre une infection par le VIH au cours des dernières années. Vous voyez que par million d'habitants, c'est-à-dire pour 1 million d'habitants chaque année, il y a à peu près entre 300 à 700 personnes chez qui on découvre une sérologie VIH à Paris et région parisienne. C'est encore des valeurs très importantes. Chaque année en France, aujourd'hui, en 2008-2009, il y a entre 5 à 6 000 découvertes de sérologie VIH. Le VIH, il y a un certain nombre d'années, avant 95, on en mourait. Quand j'ai commencé mon internat dans les années 90, j'étais dans des salles infectieuses à Garches, et je me souviens tous les jours, ou même à la Pitié par la suite, sur 20 patients, j'en avais 2 ou 3 qui mouraient chaque jour du VIH. Des jeunes gens de 20 ans, de 15 ans, de 25 ans. Aujourd'hui, c'est rarissime. On meurt encore du VIH, mais pour certaines infections découvertes tardivement, et je vais vous en reparler. Pourquoi ? Parce qu'on a des traitements. Ce n'est pas une raison pour l'attraper. Le virus lui-même, je pense que vous l'avez vu en SVT, non ?
Ouais.
Donc vous avez, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez 2 segments d'ARN, et ça c'est fondamental, qui sont à peu près identiques. Hein, c'est 2 fois la même copie, à peu de choses près, qui sont contenus à l'intérieur de ce qu'on appelle une matrice. Et une capside, et à l'intérieur de cette capside qui est faite de protéines, vous avez différentes enzymes qui vont jouer un rôle fondamental pour transformer cet ARN en un message qui sera lu ultérieurement pour fabriquer à nouveau du virus, mais je vais vous montrer le cycle viral que vous connaissez par cœur. À l'extérieur du virus, on a ce qu'on appelle une membrane. C'est généralement, pour tout virus, la membrane, comme je vous l'ai expliqué, c'est un virus, c'est un être unicellulaire qui ne se développe qu'à l'intérieur d'autres cellules animales ou humaines. Donc tout ce qui enveloppe autour d'un virus, le plus souvent, il s'agit de l'enveloppe provenant de cellules humaines, dans ce cas présent, d'accord ? Avec des assemblages de ce qu'on appelle des sucres et des protéines, ça s'appelle des glycoprotéines, qui sont des espèces de clés qui permettent de se fixer sur des récepteurs cellulaires ou de pénétrer à l'intérieur des cellules. Et c'est fondamental d'avoir ces glycoprotéines qui sont synthétisées cette fois-ci par le virus lui-même. Donc le cycle, je vous en parle parce que je sais que vous le voyez aussi en terminale. Vous avez un virus, vous pouvez se faire infecter. Avec un seul virus, vous pourriez vous faire infecter. Hein, vous injectez un virus dans le sang. Alors, soit votre système immunitaire est suffisamment puissant pour pouvoir empêcher le virus de se développer, soit le virus, malheureusement, peut se développer. Ça va très, très, très vite. Vous avez donc ce virus qui vient se fixer à la surface de votre cellule. On vous a parlé de récepteurs 10 et D4. Ce sont des lymphocytes, des globules blancs qui ont la capacité de défendre votre organisme contre un certain nombre d'infections. On verra lesquelles tout à l'heure. Et en l'absence de ces cellules, les infections vont se développer. Donc la cible de ce virus, c'est ce qu'on appelle ces lymphocytes CD4, les globules blancs. On va se fixer donc ce virus sur les récepteurs CD4 de la cellule en utilisant d'autres co-récepteurs, peu importe. On appelle ça des CCR4-6 et CR5, pour lesquels on a des molécules actuellement. C'est ça, ces co-récepteurs. Donc si vous voulez, vous avez une espèce de clé et de serrure un peu compliquée à ouvrir, mais le virus y arrive fréquemment et facilement. Une fois qu'il va y avoir fixation de ce virus sur ce récepteur, il va y avoir une fusion entre la membrane de ce virus, qui est une membrane cellulaire humaine, avec la cellule du lymphocyte. Et puis vous avez tout le matériel génétique du virus qui va pouvoir pénétrer par la suite à l'intérieur de la cellule. Il va y avoir ce qu'on va appeler une rétrotranscription, c'est un rétrovirus. Il y a 4 rétrovirus actuellement connus, hein. C'est le HIV1, le HIV2, le HTLV1 et le HTLV2. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des rétrovirus? Parce que ce sont des virus qui nécessitent qui sont constitués d'ARN. Vous savez ce que c'est que l'ARN? La plupart? Bon, c'est du matériel génétique fondamental pour toute cellule qui, lorsque l'on traduit cet ARN, permet la synthèse de protéines qui serviront au bon fonctionnement d'un virus ou d'une cellule. Donc tous ces rétrovirus ont la possibilité et surtout la nécessité de passer par un stade intermédiaire au lieu de se faire directement traduire en se transformant en un brin d'ADN. On fabrique le deuxième brin d'ADN complémentaire, ça vous l'avez vu. Et puis, grâce aux reverse transcriptases, c'est-à-dire des enzymes spécifiques du virus, et puis vous allez avoir une intégration de cet ADN, de ce morceau d'ADN, au sein du noyau du lymphocyte. Vous m'arrêtez si vous ne suivez pas. Au sein du noyau de ce lymphocyte, au hasard, n'importe où. Hein, donc vous avez un morceau d'ARN du virus, on le transforme en un morceau d'ADN, un deuxième morceau d'ADN complémentaire, vous savez que c'est un double brin d'ADN, et ça va s'intégrer un peu au hasard grâce à des intégrases au niveau du noyau, au niveau du matériel génétique de la cellule. Et puis très rapidement, ça va partir dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est un rétrovirus. Clac. On a fait une étape, on repart dans l'autre sens. On pourrait très bien sauter cette étape, mais c'est comme ça. Enfin, le virus du VIH, c'est un virus un peu bête, qui fait plein de bêtises, et c'est un peu ennuyeux pour le traitement. Donc on va repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'ADN va être relu cette fois-ci en ARN, ou transcrit, on vous a appris ça, je ne dis pas de bêtises. Une fois que c'est transcrit, c'est-à-dire qu'on part en un morceau d'ARN qui va être traduit. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez tout un programme informatique, vous ne savez pas lire les programmes informatiques où il y a des suites de lettres, de machin, de trucs, on n'y comprend rien du tout, mais ça va être traduit en un texte tout à fait lisible, en des protéines, en des structures qui vont servir à la fabrication du virus. Donc on repart dans l'autre sens, on se retrouve avec plein de protéines, une longue chaîne de protéines, comme un train, un long train avec plein de wagons, et puis vous allez couper chaque wagon avec certaines enzymes, et ces wagons vont pouvoir s'associer de façon suffisamment intelligente pour redonner naissance à un virus qui va se recoller à la surface de la cellule, qui va repartir. Donc ça va rebourgeonner, et on va se retrouver comme à l'entrée. Mais au lieu d'avoir un virus qui est rentré dans la cellule, cette fois-ci vous allez avoir des milliers de virus qui vont sortir de la cellule infectée. D'accord ? Donc tout ça, ça va très très vite. La vitesse à laquelle s'effectue ce cycle, en gros, est estimée à 2 jours. C'est ultra rapide. Donc, vous imaginez que lorsqu'un virus va rentrer à l'intérieur de ces lymphocytes CD4, T4 comme on disait avant, il va se multiplier, mais il va tuer la cellule. Donc tous les jours, vous allez avoir une espèce de balance entre des milliers de virus, si vous n'avez pas de traitement, qui vont détruire les cellules qui défendent votre organisme contre les infections. Et puis, bien sûr, l'organisme essaie de fabriquer ces cellules, parce qu'il faut fabriquer des cellules dans la moelle osseuse pour lutter contre ces infections. Mais il y a un jour, l'organisme ne peut plus lutter, ne peut plus être suffisamment puissant pour fabriquer ces cellules. Et c'est donc ce schéma que je crois que vous connaissez aussi dans vos bouquins de terminale, vous avez ça, non ? Non ? Oui ? Oui. Tout ça, c'est la vie d'une personne infectée par le VIH, sans traitement. Je précise bien, sans traitement, parce qu'aujourd'hui, tout a changé. Lorsque vous faites il y a deux choses, deux prélèvements sanguins qui sont fondamentaux chez les patients infectés par le VIH, et on les suit comme ça. C'est ce que l'on appelle la charge virale, c'est-à-dire que là, on quantifie dans leur sang le nombre de virus qu'il y a par millilitre de sang. Alors, on appelle ça une charge virale. Et on parle de X copies de virus par millilitre de sang. Et puis, la deuxième chose importante, fondamentale pour le suivi des patients, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes, le dosage des lymphocytes CD4 dans l'organisme pour savoir où est-ce qu'on en est pour instaurer certains types de traitements. Et bien, au début, lorsque vous faites infecter ce qu'on appelle une primo-infection, pour tout virus, la première fois qu'on rencontre ce virus, ça s'appelle une primo-infection. Vous rencontrez la rubéole, vous faites la primo-infection rubéolique. La grippe, c'est pareil. Le VIH, c'est pareil. Vous allez avoir une énorme prolifération de virus. Pour vous donner une idée, je crois que le maximum que j'ai dû voir, ça devrait être près de 50 millions de virus par millilitre de sang. Vous imaginez 50 millions de virus dans un millilitre de sang ? Et puis, ça va diminuer un petit peu après. Et de façon concomitante, vous allez avoir une baisse transitoire des lymphocytes CD4, parce que les lymphocytes CD4 s'en prennent plein la figure. Pof, ils se font détruire par le VIH. Et secondairement, ça va remonter un petit peu. Et plus le temps va passer en l'absence de traitement, plus, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le nombre des lymphocytes CD4 va diminuer au cours du temps. L'organisme ne pourra pas lutter contre l'infection virale, ne pourra pas fabriquer suffisamment de lymphocytes CD4 au cours du temps. Alors l'évolution pour laquelle les lymphocytes CD4 vont descendre jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil au-dessous duquel il y a un grand risque de voir apparaître certains types d'infections liées au sida, des maladies infectieuses, ça peut être quelques années, 3, 4, 5 années, ça peut être 10 années. Il y a la plupart des personnes, c'est 7-8 années, mais il y a certaines personnes également, que j'en suis deux comme ça, qui sont infectées depuis 20 ans et qui ont toujours des CD4 très très élevés avec peu de virus dans le sang. D'accord ? Donc c'est variable d'un sujet à l'autre, bien évidemment. Et plus le temps avance sans traiter les gens, plus le virus se multiplie, plus les lymphocytes diminuent, donc plus vous avez un risque de développer des maladies dites opportunistes. C'est-à-dire le plus souvent des maladies qui sont en vous qui vont se réveiller, qui apparaissent de façon opportuniste au cours de votre vie et de votre évolution. Alors il y a plein de maladies que vous connaissez. Vous avez sûrement entendu, je vais vous montrer des images après. Voilà, la pneumocystose, c'est la maladie dont je vous parlais tout à l'heure chez les homosexuels de San Francisco. C'est une infection parasitaire qui atteint le plus souvent le poumon. Il y a du pneumocyste partout, mais tout un chacun ne fait jamais de pneumocystose. C'est rarissime, sauf si vous êtes immunodéprimé, sauf si vous êtes greffé, sauf si vous êtes infecté par le VIH. Et on peut observer ce type de pathologie, y compris donc chez les greffés aujourd'hui, lorsque le taux de CD4 est inférieur à 200 cellules par microlitre, sachant que, en gros, chez une personne non infectée par le VIH, les valeurs sont entre 800 et 1000-1200. Et plus vous descendez bas, plus on se retrouve vers 0 T4, et Dieu sait si on en voyait dans les années 80-90, plus vous aviez des risques de développer certains types d'infections rarissimes que l'on voit, et que l'on voyait bien évidemment que chez les patients infectés par le VIH, mais également aujourd'hui avec l'évolution de la médecine chez les patients qui sont greffés, avec des greffes par exemple hématologiques. Quand on ne se fait pas traiter contre le VIH, on a une évolution donc qui évolue forcément vers la mort, à 90%, 99%. Et outre ces infections, qui généralement sont présentes dans votre organisme et qui se réveillent liées à l'immunodépression, vous pouvez développer des cancers. Il y a plein de cancers qui sont également on va dire, réfrénés par la présence des lymphocytes CD4, et en l'absence de ces lymphocytes CD4, ces cancers vont pouvoir apparaître, par exemple, comme des lymphomes. Lymphomes qui sont généralement de bon pronostic. Il y en a beaucoup différents, mais bon pronostic, c'est quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH, un peu plus compliqué, c'est quelqu'un qui est infecté par le VIH à traiter. Et puis, je vous remontrerai ça après. Aujourd'hui, avec le traitement antirétroviral, on ne voit plus ces pathologies, ou rarement, en tout cas dans les pays dits développés. Et aujourd'hui, quand vous êtes infecté par le VIH, vous vieillissez, comme tout le monde, comme toute la population, c'est une pathologie dite, considérée comme chronique, comme une hypertension, un diabète, une hypercholestérolémie. Et aujourd'hui, des personnes qui sont infectées par le VIH vieillissent, meurent de vieillesse, mais ils meurent aussi beaucoup de pathologies cardiovasculaires, parce qu'ils ont beaucoup fumé. Donc ne fumez pas. Ne soyez pas infectés par le VIH, bien sûr, mais surtout ne fumez pas. Et ils font beaucoup de cancers. Cancer du poumon, essentiellement. Lié au tabac. Donc ça, c'est une autre façon de vous présenter le type d'infection. Vous voyez, plus les lymphocytes diminuent, plus vous avez, je suis désolé si les couleurs ne sont pas terribles, plus vous avez un risque de développer certains types de pathologies. Et la liste des maladies liées au VIH, donc au sida. Au sida, c'était une vieille définition. On disait, dès que vous avez une pathologie qui est en rapport avec une immunodépression profonde liée à l'infection par le VIH, vous faites un sida. Ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. C'est une définition papier qui n'existe, enfin, qu'on utilise pour les statistiques, mais pas pour les patients, parce qu'aujourd'hui, on les traite et on les améliore largement. Vous aviez une liste d'une centaine de maladies qui pouvaient être associées à ce sida. Donc, cancer, infection, infection de tout ordre, des champignons, des parasites, des bactéries, la tuberculose, tout ce que vous voulez. Bon, les photos, là, je ne suis pas certain que ça passe bien ici. Ça, c'est une pneumocystose, donc c'est-à-dire une infection grave des poumons que l'on peut observer chez des patients fortement immunodéprimés. Ça, c'est des scanners de ces pneumocystoses. Normalement, vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est pas normal. Vous imaginez que ça, c'est comme du calcaire qui se dépose sur les poumons, qui fibrose les poumons, et on ne peut bien évidemment pas respirer correctement avec ça. Ce type de patient, dans les années 90, on avait beaucoup. Enfin, on les traitait bien, parce qu'on avait des traitements pour traiter la pneumocystose, mais après, on n'avait plus rien à leur proposer en termes de traitement antirétroviral. Tuberculose, énormément de tuberculose. Il ne faut pas croire que la tuberculose est une maladie qui est complètement éradiquée. Je vous rappelle qu'il y a à peu près, on est combien, 6 milliards sur la surface de la Terre, 5 milliards. Il y a 1,6 ou 8 milliards de personnes qui sont porteuses de la bactérie de la tuberculose à la surface de la Terre. Et à peu près 10-12 millions qui en meurent chaque année. Donc la tuberculose n'a pas disparu, mais se voit plus fréquemment chez des patients africains infectés par le VIH, fortement immunodéprimés ou moyennement immunodéprimés. Vous voyez, par exemple, ça c'est une tuberculose typique, même beaucoup trop typique. Le cerveau, c'est quelque chose qui est particulièrement atteint par le VIH. Outre le VIH lui-même qui peut détruire le cerveau, là je vous donne des exemples de toxoplasmose. Vous avez tous entendu parler de la toxoplasmose. On cherche toujours ça chez les jeunes femmes lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'il peut y avoir une transmission au cours d'une infection au bébé si la maman n'est pas infectée et qu'elle s'infecte au cours de la grossesse. Mais là, la toxoplasmose chez le patient au VIH, il y a des kystes qui sont présents, puis la toxo se réveille à un moment ou à un autre lorsque vous êtes fortement immunodéprimé. Et vous voyez, par exemple, des abcès ici. Bon, ça, c'est des images qui ne sont pas très parlantes, mais vous pouvez avoir 50, 60, 70, 100 abcès dans la tête liés à ce parasite. Là, c'est un cancer de la tête, un lymphome. Pour donner une idée, on peut en avoir partout. Ces lymphomes sont liés à des virus qui s'appellent le Epstein-Barr virus, qui est le virus de la mononucléose infectieuse, qui, à un moment ou à un autre, est toujours présent dans notre organisme. Si on fait la mononucléose infectieuse, tout le monde l'a fait un jour en étant symptomatique ou pas, et ce virus peut se réveiller au niveau du cerveau et être responsable de ces tumeurs. Ça, c'est une autre toxo cérébrale, bon. Vous voyez, ça c'est le cerveau normal. C'est vous, c'est nous, enfin j'espère. Ça, les trous ici s'appellent des ventricules. Alors ça, c'est vraiment une personne âgée qui a ça. normalement, ce sont les personnes âgées qui ont des trous. Nous, normalement, nos ventricules, ils sont, on ne les voit pas énormément sur les scanners ou en anapath. Pareil pour les sillons. Ben, ça, c'est sûrement le cerveau d'une personne de 30 ans, 40 ans, qui est infectée par le VIH, qui a un cerveau exactement compatible avec celui d'une personne de 90 ans. On vieillit plus vite quand on est VIH. Et puis, ce qui est ici, c'était de la toxoplasmose. Vous voyez, c'est des zones qui sont mortes, nécrosées, comme si vous avez grillé le cerveau. Bon. On ne voit pas très bien. Bon, je vous ai mis quelques images comme ça. Ça, c'est des images au front d'œil. La rétine, vous connaissez la rétine, hein, c'est ce qui permet de voir. Il y a tous les nerfs qui arrivent à ce niveau-là. On peut très bien avoir. Et ensuite, tous les patients VIH avec des fonds d'yeux, c'est-à-dire, on regarde le front d'œil très régulièrement lorsqu'ils sont immunodéprimés. On peut avoir soit certains types de virus, comme du CMV, de l'herpès, ou de la toxo, qui va vous faire mourir ces zones de la rétine et vous rendre aveugle par moment, si vous ne traitez pas les gens correctement et rapidement. Un Kaposi, ça vous avez tous entendu parler de ça. Mais Kaposi, il y avait ce film merveilleux là, qui était Philadelphia, où il y avait un avocat, c'est ça ? Alors, au début, qui était à San Francisco et qui, comme premier signe, a eu certaines pneumocystoses. Il y avait des pneumocystoses, mais surtout, il y avait des signes cutanés de Kaposi. Voilà, c'est ça le Kaposi. C'est lié à un virus qui s'appelle le HHV8, ou KSHV en anglais, qui est responsable de ce type de lésion. Aujourd'hui, tout ça se traite très bien. Il y a 20 ans, on en mourait. Aujourd'hui, il y a certains patients que je vois arriver à ce stade-là, qui ne savent pas être infectés par le virus, donc qui arrivent avec un Kaposi. Ils en ont plein sur le visage, plein sur le palais, plein dans l'estomac, plein dans le poumon, plus la pneumocystose, plus la tuberculose, parce que quand on est infecté par le VIH, on a souvent non pas une infection, une maladie, quand on arrive au stade sida, mais on peut en avoir 2, 3, 4, 5, ça monte jusqu'à 7 ou 8 par moment, donc c'est assez complexe à traiter. Aujourd'hui, fort heureusement, depuis donc les années 95, et plus le temps passe, plus on avance sur ce sujet, on a des traitements pour traiter ces patients, ça s'appelle des traitements antirétroviraux, donc contre les virus des rétrovirus. On a à peu près 25 molécules différentes actuellement. Et l'objectif de ce traitement, c'est bien évidemment on reprend le schéma que je vous ai donné au début, c'est de repartir à l'envers. C'est-à-dire de faire complètement chuter le nombre de virus par millilitre de sang, la charge virale, mais également, si vous tuez le virus, si vous empêchez le virus de se multiplier, parce qu'on n'arrive pas à le tuer, de permettre aux lymphocytes CD4 de remonter. Logique, non ? Donc, ça s'appelle l'inhibition de la réplication virale, c'est-à-dire qu'il faut faire disparaître le virus du sang. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a aucun médicament antiviral qui tue le virus. Ça s'appellerait un virucide, ça n'existe pas. Le virucide, c'est l'eau de Javel. Hein, vous tuez le virus et vous mettez l'eau de Javel dessus. On n'a aucun médicament. On a ce qu'on appelle des virostatiques, c'est-à-dire des médicaments qui empêchent la réplication du virus. D'accord ? C'est une nuance très importante, parce que dès que l'on traite les patients, bien évidemment, vous allez avoir une forte diminution de la charge virale, une forte diminution du nombre de virus par minute de sang, donc les lymphocytes vont monter. Mais dès que vous arrêtez de prendre le traitement, si vous déconnez avec votre traitement, le virus va tout de suite remonter, se réveiller. D'accord ? Donc aujourd'hui, on n'a pas de traitement dit curatif. On ne traite pas, on ne guérit pas un patient infecté par le VIH. On le rend chronique, le patient, comme n'importe quelle pathologie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si on diminue cette charge virale, les lymphocytes CD4 vont remonter. C'est fondamental. Donc si vous avez des lymphocytes CD4 qui remontent, vous n'aurez absolument pas de maladies opportunistes, donc de toxoplasmose, de tuberculose, tout ce que vous voulez. Donc votre survie va augmenter, vous allez vivre normalement, et puis surtout, vous avez, et c'est fondamental aussi, vous avez une diminution du risque de transmission du virus. Hein, parce que c'est bien d'être infecté par le virus du VIH, c'est bien d'être traité, mais il faut aussi ne pas transmettre le virus, parce que l'on sait que l'on est infecté. Il y a eu un article, bon ça c'est un journal américain qui est fortement connu, en tout cas en médecine, mais il y a surtout eu un article dans le New England, en 96, qui a largement démontré aux États-Unis, c'était fondamental, surtout sur cette courbe, hein, le reste on s'en moque, de voir que depuis qu'on avait introduit ce qu'on appelait les trithérapies en 1995, c'est-à-dire donc l'association d'au moins trois molécules différentes, eh bien vous aviez, en 1995, c'est là où on a commencé à introduire, hein, vous avez vu cette chute de la mort, du nombre de décès de patients aux États-Unis liés à l'utilisation de ces traitements antirétroviraux. De façon concomitante, vous aviez l'augmentation du nombre de trithérapies. Donc ces trithérapies, où les premières trithérapies ont complètement révolutionné la médecine, bien évidemment au niveau du VIH, mais aussi au niveau de toute l'infectiologie. Ça, c'est en France, vous voyez. 95-96, on introduit ces trithérapies. Avant, vous aviez, pour 1000 personnes, vous aviez à peu près 12-15% de mortalité chaque année. Hein, vous prenez 100 personnes infectées par le VIH, on avait 12-15 qui mouraient, boum. Et ben, on introduit ces traitements et vous voyez que à la fois les événements sida, les pathologies opportunistes, etc., ont chuté, mais également les décès ont complètement chuté. Aujourd'hui, on est à une des valeurs incompressibles. Il y a à peu près 600 personnes qui meurent chaque année en France du sida. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles meurent certes d'événements opportunistes, mais il y en a qui meurent de vieillesse, il y en a qui meurent d'infarctus, il y en a qui sont écrasés dans la rue, il y en a qui se suicident. Et puis il y en a beaucoup qui meurent du cancer aujourd'hui, comme la population générale. Une autre façon de vous illustrer cela, c'est l'évolution du VIH en France, du nombre de cas de sida en France depuis les années 80. A priori, le virus du VIH existe depuis très très longtemps. On a retrouvé du VIH chez des patients dans les années 50, surtout je crois à Mexico, c'est étonnant, on part toujours de là. Voilà. Et vous voyez, l'évolution du nombre de sida, en 1995, on a introduit des associations, et vous avez vu ça, pof, on chute. C'est quand même spectaculaire. L'évolution en termes de recherche sur une maladie, je crois, n'a jamais été aussi rapide, à ma connaissance, depuis quelques années, hein, en termes de pathologie infectieuse en tout cas. Une autre façon d'illustrer ça, vous voyez, ça c'est le nombre depuis l'introduction des trithérapies, de toutes ces infections dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avant, quand j'étais jeune étudiant, il y avait toutes ces pathologies que l'on voyait tous les jours. Vraiment, c'était tuberculose, toxoplasmose, du kaposi, du ceci, du cela. Aujourd'hui, les jeunes internes, ils connaissent plus ça. Ils n'en voient plus. Quasiment pas. J'étais avec les vieux qui savent à la rigueur, ils pensaient en France, hein, dans les pays développés. Malheureusement, quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Asie du Sud-Est, les gens meurent de tuberculose. Mais les gens meurent aussi d'autres pathologies que l'on ne voyait même pas en France à l'époque, dans les années 80, d'infections en champignons un peu particulières, comme on peut voir par exemple en Asie Sud-Est. Bon, juste pour vous montrer ça aujourd'hui, de quoi on meurt quand on est infecté par le VIH, je vous disais, alors il y a que certaines pathologies, c'est en bleu ce qu'il faut regarder, aujourd'hui, ça c'était en 2000 et ça c'est en 2005, il y a des pathologies liées au sida. C'est sûr, vous êtes un lymphome, on ne peut pas le traiter, on peut le guérir, vous mourrez. Ou vous arrivez à un stade ultime de votre infection, de la tuberculose ou de la toxoplasmose, ou ce que vous voulez, parce que vous êtes très immunodéprimé et malheureusement vous en mourrez. Mais vous voyez quand même qu'aujourd'hui, près de 17% des gens infectés par le VIH qui meurent de cancer. Et quand on parle de cancer, ce n'est pas les cancers associés au VIH qu'on connaissait avant. Hein. C'est du cancer du poumon à 35 ans ou à 40 ans chez le fumeur. Du cancer de la prostate à 50 ans, donc c'est-à-dire beaucoup plus jeune que dans la population générale. On meurt également parce qu'on a des co-infections, ce qu'on appelle une co-infection, c'est hépatite B ou C. Hépatite B, on la traite bien, hépatite C également, mais par moments, il est difficile de traiter l'association VIH et hépatite C, donc on en meurt facilement de cancer du foie. Je vous l'ai dit, tout ce qui est cardiovasculaire, il a été prouvé que les molécules antirétrovirales sont merveilleuses, mais elles sont associées malheureusement parfois à des effets indésirables. Et on sait très bien que certains types de molécules antirétrovirales peuvent s'associer à des infarctus. Donc d'un côté, là aussi, tout à l'heure on avait la balance entre la charge virale et l'infocyte CD4. Là je vous parle de la balance entre l'effet positif d'un traitement et l'effet malheureusement négatif associé à des effets indésirables. Je reviens sur le schéma dont je vous avais parlé tout à l'heure sur la réplication du virus. Et bien, je vous ai mis en rouge ici tous les stades où l'on peut intervenir d'un point de vue thérapeutique sur les patients infectés par le VIH. Les premières molécules qui ont été trouvées, c'était des inhibiteurs de la reverse transcriptase, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire des molécules qui empêchaient la transformation de ces morceaux d'ARN en un ADN simple brun et double brun dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est les premières molécules, la ZT fait partie de cette famille. Ce qui a révolutionné la médecine antirétrovirale en 1995, c'est de retrouver une nouvelle classe qui s'appelle les inhibiteurs de protéases, vous avez tous entendu parler de ça, qui sont des espèces de paires de ciseaux qui coupent cette longue chaîne protéique, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour que les protéines s'assemblent. Et puis maintenant, on a, depuis 3-4 ans, trouvé des nouvelles classes de familles qui sont les inhibiteurs de fusion. Alors ça, c'est insupportable parce que ça se fait en sous-cutané, on abandonne un peu ces injections deux fois par jour, qui font mal, qui empêchent l'attachement du virus à la surface du lymphocyte CD4. On a un autre inhibiteur de fusion qui est un anti-CCR5, peu importe, qui se développe et qui a l'air de marcher très très bien. Et puis on a les anti-intégrases qui se développent, mais ça on ne les connaît pas encore très très bien. L'association de toutes ces molécules se fait dans tous les sens. Hein, moi j'ai des patients que je traite avec trois molécules de cette classe. Avec certains, c'est une molécule de là, une molécule de là, puis une molécule de là. Et puis il y a certains patients qui étaient en échappement, je vous ai dit tout à l'heure, on peut utiliser jusqu'à, on est à certaines périodes, lorsqu'on avait des molécules pas assez puissantes, on utilisait jusqu'à 6 à 7, voire 9 molécules différentes. 25, 30, 40 comprimés par jour, vous imaginez ce que ça peut faire. Mais ça, c'était dans les années 2000, début 2000, lorsqu'on rattrapait les personnes qui avaient quelques soucis virologiques des années 80, mais grâce à ça, on les a sauvés. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles molécules plus puissantes qui sont arrivées. Comment choisir un traitement? Je ne vais pas m'étendre sur le choix d'un traitement antirétroviral. Il y a une chose fondamentale, mais fondamentale, que je trouve plus importante, c'est de s'intéresser à la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, c'est bien, on veut trouver de nouvelles molécules. Si c'est pour donner une nouvelle molécule puissante avec 6 comprimés le matin, 22 à midi et 32 le soir, ok, c'est une chose, on fait de la recherche, c'est bien, mais c'est tellement mieux d'avoir un comprimé matin et soir, ou 2 comprimés le soir, voire maintenant un comprimé en une prise de soir. Ça change tout si, bien évidemment, votre virus est sensible aux molécules que l'on vous donne. Donc la recherche est bien, sur le VIH, mais à mon avis, il y a des limites déontologiques et humaines, et je crois qu'il faut prendre en compte quand même la qualité de vie de ces patients. Bien évidemment, le choix des molécules, en plus de ça, ça va dépendre du virus. Il y a des virus qui échappent au traitement, qui sont résistants à certaines molécules. C'est parce que ça, c'est de la faute des docteurs, parce que pendant des années, on a donné des monothérapies, des bithérapies, et ce n'était pas assez puissant pour pouvoir éradiquer les virus, ou parce que les patients prenaient mal leur traitement, et donc dans ce cas-là, le virus échappait au traitement. Il faut prendre en compte, bien évidemment, tout ce qu'il y a comme pathologie associée. Il y a certaines molécules qu'on ne peut pas donner chez les femmes enceintes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, être enceinte, quand vous êtes VIH, ce n'est pas un obstacle à la grossesse. Mais on ne peut pas donner n'importe quelle molécule qui soit toxique pour le bébé, sur le bébé. Il y a des médicaments qui sont à la fois efficaces, par exemple, sur le VIH et sur l'hépatite B. Donc, autant réfléchir pour donner un médicament qui marche sur les deux à la fois. Enfin, bon, il y a plein d'arguments et qui rentrent en compte pour ces traitements. Donc là, je vous ai mis la liste des médicaments utilisables. Je crois que ça tombe au bac cette année. On m'a dit qu'il y avait toute la liste à apprendre par cœur. Alors, je vous ai mis que des génériques. Enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup de molécules. On a fait plein de recherches. Il y a plein de recherches pharmacologiques sur ces molécules. Je ne les ai d'ailleurs pas toutes mises, sachant qu'il y en a plein que l'on peut associer les unes avec les autres. Il y en a certains médicaments qu'on ne peut pas associer les uns avec les autres. Il faut jongler un peu sur toutes ces molécules. Pour vous donner une idée, on a des associations aujourd'hui, par exemple, où on a trois molécules, enfin deux ici et une ici, en un comprimé par jour maintenant. C'est quand même merveilleux. Quand je vous parlais tout à l'heure de la ZT en 88, où vous preniez deux comprimés toutes les 4 heures, ça a changé. Dans les années 90, 95, on était plutôt à des comprimés matin, midi et soir. Aujourd'hui, la plupart des patients n'ont des comprimés que le matin et le soir. Et si possible, en une prise par jour. Ça, ça se fait uniquement par voie injectable, ce qui n'est pas terrible. Voilà, donc ça fait pas mal de molécules. Bien évidemment, toutes ces molécules sont associées à une grande efficacité, mais également à une toxicité, à des effets indésirables. Non obligatoire, mais qu'il faut expliquer aux patients pour qu'ils vous en parlent dès que ça apparaît. Il n'y a pas dans ces molécules, ça donne des grosses allergies. C'est possible, enfin, il est possible que ça donne des grosses allergies. Si votre patient ne vous le dit pas, si vous n'avez pas connu votre patient et s'il ne vous le dit pas, et que sa peau se décolle et il devient brûlé, par exemple, au bout de 8 semaines, c'est que vous aurez loupé quelque chose. Bon, vous voulez après je vous parle de la grippe. Vous voulez qu'on continue sur la grippe ou vous voulez faire une pause juste pour parler du VIH? Donc on fait une pause juste, vous posez-moi les questions. Enfin, il n'y a pas une pause, on fait une pause pour que vous me posiez des questions. Oui. Alors, l'origine du VIH, c'est une excellente question. Comme pour tout virus, on ne le sait pas. On imagine que le virus du VIH proviendrait, mais tout ça c'est avec des points de entre guillemets, des singes, qui s'appellent des troglodytes. Troglodytes, qui étaient des singes que l'on a retrouvés au Zaïre, en République démocratique du Congo maintenant, pardon. Dans les années 60, il semblerait qu'il y ait eu des infections, en tout cas retrouvées chez ces singes. Et puis, vous savez qu'en Afrique, il y a un certain nombre de personnes et tribus qui vont chasser le singe, les grands singes. Donc, en se blessant, en tuant ces singes, le virus serait passé du singe à l'homme. Et puis, petit à petit, il y a des moyens de communication. Le VIH, ça se transmettait par voie sexuelle. Donc les villages se faisaient infecter et il y a eu des moyens de communication qui se sont développés, bien évidemment, je fais des bêtises avec mon micro, dans les années 75-80, et avec le développement des moyens de communication, la route, les routiers, les ceci, les cela, le VIH s'est déplacé petit à petit du village en village, puis de ville en ville, puis le premier patient chez qui on l'a trouvé, c'était un steward canadien, mais je veux dire, on l'a trouvé chez un steward canadien, point. Voilà, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il vient du Canada. Probablement une origine, comme la plupart des virus, ça serait un virus animal qui est passé de l'animal à un homme un jour. Hein, la plupart des virus, comme je vous l'ai dit, c'est des morceaux d'ARN ou d'ADN. Donc on a en nous des tonnes de virus qui dorment, qui n'existent pas, mais qui à un moment ou à un autre pourraient donner naissance, notre ARN ou notre ADN, à un virus qui pourrait être toxique pour les animaux, les plantes ou d'autres hommes. Donc probablement le singe. Mais depuis quand il existe, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, je n'en sais rien. On ne sait pas. Sur le plan humain, je vous dis, je crois qu'on l'a retrouvé en des années 50. Les premiers patients infectés par le VIH.
C'est vrai, ceux qui ont le sida, ne vont pas en karaté, tous dans un pays.
Pourquoi on ne met pas en quarantaine tous les patients qui sont infectés par le VIH? Pour la simple et bonne raison que c'est une maladie qui ne se transmet pas de façon interhumaine facilement, c'est-à-dire que on ne transmet pas le VIH parce que je te parle, je bois dans ton verre, etc. Je crois que la plupart des patients infectés par le VIH, d'abord, comme toute pathologie, on ne va pas mettre les gens en prison parce qu'ils sont malades, ils n'y peuvent rien, hein. Non, ou sur un pays, peu importe. Je crois que ce sont des gens, comme n'importe quelle pathologie, il faut les traiter, il faut savoir les soigner, il faut les entourer. Il y a quand même une certaine partie des gens qui sont infectés par le VIH qui n'ont pas demandé à être infectés par le VIH. À moins de s'injecter du virus dans le sang, personne ne veut être infecté par le VIH en tout cas. Donc ce n'est pas une maladie à caractère honteux comme certains régimes totalitaires pourraient l'imaginer ou le faire croire. Ce sont des gens comme tout un chacun, comme toi, comme moi, comme n'importe qui ici. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu as une boucle d'oreille ou deux qu'on va t'enfermer dans un pays ou te mettre à l'étranger parce que tu as une boucle d'oreille et que tu n'es pas comme les autres.
Comme ça, tu as plus de risques de se répandre.
Non, mais
comme ça, aujourd'hui,
c'est plus de la transmission du VIH, comme n'importe quelle pathologie infectieuse, ça passe par la réduction de la transmission et donc ça passe par l'information et l'information. Je veux dire, si je veux dire, on informe suffisamment aujourd'hui qu'il faut mettre un préservatif, par exemple, pour ne pas transmettre le virus du VIH, si on lève ce type de formation et d'information, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation de l'épidémie. Hein, mais il y aura de question de mettre les gens les isoler comme ça, ça ne se ferait pas. Et puis, encore une fois, c'est le rôle des médecins, c'est de traiter les patients en VIH, de faire de la formation. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui se font contaminer sans le savoir. On ne va pas les isoler encore plus. La plupart des gens qui sont infectés par le VIH aujourd'hui sont infectés dans des pays sous-développés. Je crois qu'il y a assez de malheur dans ces pays pour ne pas en rajouter et ne pas les isoler comme ça. Donc on arrête la médecine et puis on met tous les cancers du poumon dans tel pays, les cancers de prostate en Suisse, les VIH au Malawi et puis soyons sérieux.
Tout à l'heure vous avez parlé de transmission par l'accouchement.
Oui.
C'est quand c'est possible la transmission du VIH parce que ça touche la mucosité.
Oui, alors c'est, comme je disais tout à l'heure, au moment de l'accouchement, le plus souvent la transmission materno-fœtale du VIH, c'est soit dans les quelques jours ou quelques semaines juste avant l'accouchement, il peut y avoir un petit peu de... Normalement, il n'y a pas de contact du sang de la maman avec le sang du placenta au cours de la grossesse. Hein. Vous avez appris ça. Il y a simplement des échanges de tout ce qu'il faut en termes d'aliments pour le bébé, mais il n'y a jamais d'échange de sang. Il peut y avoir parfois que les virus qui passent, mais c'est rarissime. Et c'est au moment de l'accouchement, quand tu as du sang du bébé au niveau du cordon, un bébé, il y a un cordon, hein, je veux dire, tu verras ça plus tard dans les accouchements, il y a un peu de sang, il y a plein de sang de la maman dessus, il peut très bien y avoir du passage du sang de la maman à ce moment-là, parce que ça saigne, hein, l'accouchement c'est sanglant, avec une contamination du bébé à ce moment-là. Et puis encore une fois, le plus souvent, donc il y a ces contaminations à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme est enceinte aujourd'hui en étant VIH, on traite la maman bien évidemment pendant toute la grossesse. Et s'il y a du passage de virus au moment de l'accouchement vers le bébé, on traite de toute façon le bébé de façon préventive pendant un mois. Hein, de zéro jusqu'à un mois, on va traiter le bébé en lui donnant du sirop, des traitements antirétroviraux pour limiter le risque d'infection. Et un des plus gros risques de transmission dans les pays sous-développés, c'est quand même l'allaitement. Il y a plein de virus dans le lait. La muqueuse de la bouche, de l'estomac et tout ça du bébé, c'est très très fragile. Le virus peut passer facilement. Alors, les injections de lymphocytes CD4 en termes de traitement à visée anti-VIH, c'est ça en gros, ça sert à rien. C'est comme si tu donnais de l'essence à une voiture pour aller avancer plus vite. Donc, c'est comme si tu donnais à manger au VIH pour qu'il se multiplie plus facilement. Alors, les anticorps, tous les patients infectés par le VIH ont des anticorps qui sont dirigés contre le virus. Des anticorps spécifiques, mais qui n'ont pas d'efficacité suffisante pour permettre la destruction du virus par les autres cellules de la lignée blanche de l'organisme. Hein, donc, les patients en VIH ont tous des anticorps anti-VIH, mais ça ne permet pas leur élimination. C'est un peu la particularité de ce virus. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches dessus. On a essayé de stimuler, bien évidemment, tout ce qui était anticorps anti-virus VIH. Mais comme ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on a des anticorps que ce sont des anticorps efficaces, hein, malheureusement.
Et le rôle des macrophages, en fait, parce qu'on a vu qu'après multiplication du virus, ils se cachaient dans les macrophages. Comment ça se fait ?
Alors, il y a ce qu'on appelle des sites sanctuaires, c'est-à-dire des sites, comme je t'ai dit tout à l'heure, le traitement antirétroviral ne tue pas le virus. Ça empêche le virus de se multiplier. Donc le virus sous sa forme d'ADN, hein, un morceau d'ARN qui se transforme en un morceau d'ADN, puis ADN double brin, va s'insérer dans de l'ADN cellulaire macrophage, CD4, mais également dans les cellules du cerveau, des cellules au niveau des testicules, au niveau des ganglions, ça s'appelle les sanctuaires, au niveau duquel le virus va dormir, le morceau d'ADN du virus va s'endormir au sein de l'ADN cellulaire. Ça s'appelle des sanctuaires. Et puis à un moment ou à un autre, si on arrête le traitement antirétroviral qui est efficace, le virus, clac, va se réveiller et va reprendre sa multiplication. C'est la raison pour laquelle on ne tue, pour l'instant, avec les modifications qu'on a, on n'a absolument pas virucide, mais virus statique. Hein, c'est comme si on demandait au virus de dormir, simplement, le temps de... s'il dort, il ne va pas les détruire, les lymphocytes CD4. Donc les CD4 vont pouvoir se remultiplier. On n'aura plus d'infection liée au VIH, mais le virus sera endormi dans les cellules dites sanctuaires. Et ça pose des problèmes parce que au bout de combien d'années, si on traite les patients, sans multiplication virale, le virus sera-t-il éliminé totalement? Parce que ces cellules sanctuaires vont mourir aussi. Hein, toute cellule de l'organisme meurt. Donc quand une cellule qui contient du virus de l'ADN du VIH meurt, le virus meurt également. D'accord? Donc au bout de combien d'années est-ce qu'on peut se débarrasser de ce virus? Il y a eu des calculs complètement fantaisistes, c'est au bout de 70-80 ans normalement, si on prend un traitement correctement, on devrait peut-être être débarrassé du VIH. Alors il y a d'autres études qui ont été faites, les patients qui n'ont plus de virus quantifiable dans leur sang, on n'a pas assez de recul, mais comme je l'ai dit, c'est depuis 95-98 qu'on a réellement des molécules très très efficaces qui ont permis de faire disparaître le virus dans le sang des patients infectés par le VIH. Donc on a des patients aujourd'hui, moi j'ai des patients, à la pitié, je crois sur 3500 patients, on en avait 10 patients, et j'en avais un qui était indétectable, donc il n'y avait pas de virus depuis plus de 10 ans. Ce qui est rarissime, hein, parce qu'on n'a pas assez de recul. On se revoit dans 20 ans, je vous dirais, on en a qui ont 30 ans d'absence de virus dans le sang, et bien ces patients ont récupéré un système immunitaire quasi normal. C'est-à-dire identique à celui de quelqu'un qui ne serait pas infecté par le VIH. Ils ont des anticorps anti-VIH, et on sait très bien que ces anticorps sont absolument inefficaces, encore une fois. Donc on arrête le traitement chez ces patients, même si ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus de virus dans le sang, le virus, alors je ne sais pas, généralement c'est au bout d'une semaine, va se remultiplier. Et y compris dans les macrophages et toutes ces cellules. On a beaucoup parlé de la grippe aviaire. Et je vais vous faire simplement comprendre qu'actuellement, on parle de tout et n'importe quoi. Et on confond tout et n'importe quoi, notamment au niveau des journalistes. Il y a trois types de grippe différents, très schématiquement. Il y a la grippe saisonnière que vous connaissez parfaitement, vous venez de m'en parler. C'est le virus de la grippe que l'on rencontre chaque année, qui est responsable du mois d'octobre au mois de mars, des épidémies de grippe que l'on peut connaître en France, en Europe, etc. C'est un virus qui évolue gentiment, mais sûrement, chaque année, qui se modifie un petit peu, et pour lequel on a des vaccins. La grippe, il ne faut pas me dire que la grippe, c'est une maladie bénigne, hein, parce que la grippe, en France, chaque année, ça tue entre 1000 et 6000 personnes. Alors, c'est essentiellement les sujets âgés aujourd'hui, je vais dire au-delà de 75 ans, ou les sujets, les enfants de moins de 6 mois. Donc ça, c'est la grippe que vous connaissez. Vous avez sûrement tous fait la grippe chaque année. Il faut vous faire vacciner, il faut vacciner votre entourage. C'est fondamental à la fois pour vous, comme ça vous pouvez ne pas louper les cours au lycée. Et puis ça vous évite de transmettre le virus à autrui. L'endroit le plus important où les virus de la grippe se transmettent, ce sont la collectivité comme les lycées ou l'école. Donc c'est pour ça qu'un jour, s'il y a une pandémie, ou si ça arrive bientôt, on fermera les écoles. Point. Ça tombe bien, c'est bientôt le bac, après... Vous aurez le mois de juillet ou août pour vous reposer. Parce que vous vous infectez, hein, vous discutez dans la cour, vous faites des bisous, ça va bien, machin, vous vous infectez, vous retournez à la maison, puis vous allez infecter papa, maman, vos frères, vos soeurs, etc. Il y a un deuxième type de grippe, ça on en parle énormément, enfin au moins depuis 2003, mais c'est connu de tout temps, ça s'appelle la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est l'oiseau. Donc la grippe aviaire, c'est la grippe de l'oiseau. Point. Hein? Et ça se transmet exceptionnellement à l'homme. C'est rarissime. Sauf que depuis quelques années, ça a un peu changé. Je vais vous démontrer ça. Mais c'est rarissime. C'est l'oiseau qui est malade, c'est pas l'homme. Et puis, il y a un truc dont on parle actuellement qui s'appelle la pandémie. La pandémie, c'est l'émergence d'un nouveau virus à la surface de la Terre, virus que l'homme n'a jamais rencontré. Donc, si l'homme se trouve face à un nouveau virus humanisé, que ce virus qui n'a aucune protection immunitaire, aucun anticorps, on en parlait tout à l'heure, protecteur vis-à-vis de ce virus, si ce virus peut se multiplier à l'intérieur de l'homme, et s'il y a une capacité adaptative qui permet à l'homme de transmettre de façon interhumaine ce virus, on peut avoir explosé, voir apparaître ce qu'on appelle une pandémie, et cette pandémie est liée à l'émergence donc d'un nouveau virus, Mais je vais vous dire comment on fait après. Je vais juste avoir un schéma simple. Je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Et si vous avez un nouveau virus qui apparaît à la surface de la Terre, il y a ce qu'on appelle les pandémies. Les pandémies, ça tue beaucoup plus que la simple grippe saisonnière. Donc l'homme, aujourd'hui, c'est grippe saisonnière, on la connaît. Hein, nous, on est sorti des grippes saisonnières en France. Elle n'était pas très très forte cette année, au mois de février, début mars. Actuellement, dans l'hémisphère sud de notre planète, il y a les épidémies de grippe saisonnière. Hein, parce que c'est l'hiver en bas. Nous aussi, c'est l'été. Donc, ils ont la grippe en bas pendant notre été, et vice-versa, vous me suivez. Bon. OK. Donc, la grippe saisonnière, je passe là-dessus, je ne vais pas vous embêter. Des signes cliniques, vous les connaissez. Je tousse, je suis un peu essoufflé, j'ai mal partout, je suis fatigué, etc., etc. Il y a une incubation de 2 à 4 jours, c'est-à-dire que vous contaminez avec un virus et au bout de 2 à 4 jours, vous présentez les premiers signes cliniques, tout en sachant qu'à peu près un tiers des gens affectés par le virus de la grippe ont une grippe asymptomatique. C'est-à-dire que vous n'avez aucun signe clinique, mais vous crachez du virus. C'est-à-dire que vous allez en classe, vous êtes en pleine forme, vous allez contaminer tous vos copains sans le savoir. C'est comme ça. Bon. C'est cool, hein ? Comment ça se transmet ? Ben, vous toussez, vous éternuez. Et surtout, n'oubliez jamais que le virus de la grippe, ça se dépose sur les mains. En France, on a la sale habitude d'éternuer ou de tousser en mettant la main devant la bouche. Si vous mettez la main devant la bouche, vous mettez plein de virus sur la main. Je vous serre la main après, tu vas bien et tout. Ouais, ça va bien, je mets la main à la bouche, paf, je me colle le virus. C'est comme ça qu'on s'en transmet le virus. Pareil pour les mouchoirs. Nos arrière-grands-parents avaient des mouchoirs en coton, ils se transmettaient les virus comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous éternuez, vous toussez, vous mouchez, etc., vous utilisez les mouchoirs en papier que vous jetez immédiatement à la poubelle. Et surtout, bien vous lavez les mains. C'est fondamental. Et c'est comme ça qu'on se transmet le virus. Au Japon, vous savez comment ils éternuent ou ils toussent quand il y a des épidémies de grippe. Ils sont très en avance sur nous. Ils éternuent à l'intérieur du pli du coude. Donc, comme ça, ils se mettent du virus sur le pli du coude. Mais à moins d'aller que quelqu'un ait embrassé le pli du coude, ils ne vont pas transmettre les virus comme ça. D'un point de vue grippe aviaire, donc ça, c'est la première partie de grippe. Ça, là, on la connaît. La grippe aviaire, c'est une grippe qui n'atteint que les oiseaux, que certains animaux. Éventuellement, le cochon, on va en parler, ça peut atteindre des girafes, des chats, des baleines, tout ça, ça a été rapporté. Mais la grippe aviaire, ça atteint les volailles, les oiseaux sauvages, etc. Et la transmission, je répète, à l'homme est excessivement rare. Vous voyez que là, je mets toujours ces exemples, mais on pourrait les multiplier à l'infini. La grippe aviaire, qu'est-ce que ça fait ? Ça coûte cher, d'un point de vue économie, ça tue des centaines de millions de volailles, donc on va les tuer, les abattre, etc. Elles ne sont pas propres à la consommation, même si on peut les manger, mais ce n'est pas un problème. Mais ça va coûter très cher aux éleveurs d'oiseaux qui vont partir un soir de chez eux, vont revenir le lendemain, ils vont retrouver toutes leurs volailles mortes en 24-48 heures de grippe aviaire. Ce n'est pas pour autant que les personnes qui travaillent au contact de ces oiseaux vont attraper la grippe. C'est vraiment, j'insiste lourdement, c'est une grippe de l'oiseau. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, il y a eu plein d'épidémies de grippe aviaire. Et à chaque fois, il y a quelques éleveurs qui ont été contaminés avec le virus des oiseaux. Mais à chaque fois, c'était pas un gros problème. C'était des petits syndromes pseudo-grippaux, des conjonctivites, des gens qui toussaient, etc. Il n'y a eu qu'un seul décès qui a été rapporté jusqu'en 99 de grippe aviaire. En 2003, c'était aux Pays-Bas. Il y a un vétérinaire qui s'est contaminé dans un élevage d'oiseaux avec un virus aviaire qui était le H7N7, peu importe. Et ce monsieur, malheureusement, est mort d'une infection respiratoire. C'était un vétérinaire qui était en pleine forme. Ça a été le premier décès réellement rapporté, à part le H5N1, lié à un virus aviaire. Donc, vous voyez, ça coûte cher, les oiseaux sont malades, mais les hommes, rarement. Et puis là, on a un nouveau truc qui est arrivé, ça s'appelle le H5N1, qui est un peu bizarre, parce qu'on le connaissait depuis 1998, il avait été responsable à Hong Kong d'un certain nombre d'atteintes de volailles à Hong Kong, mais aussi de cas humains. Et puis depuis 2003, on parle beaucoup de ce virus, parce que c'est un virus qui se développe à la surface de la Terre, qui est devenu une véritable c'est-à-dire qu'il y a tous les oiseaux de la Terre qui peuvent être infectés, il y a des cas qui ont été rapportés partout, y compris en France. Et le gros problème de ce virus, qui, j'insiste lourdement, ne se transmet que rarissimement à l'homme, le gros problème de ce virus, c'est qu'on a observé un certain nombre d'humains qui se sont contaminés avec ce virus. Alors, le plus souvent, ce sont des sujets jeunes, des enfants, des jeunes adolescents qui travaillent au contact des volailles, bien évidemment. Mais vous voyez que c'était le 23 avril 2009, il y a eu quand même dans 15 pays 421 personnes infectées avec 257 décès, ce qui fait que 60% des gens qui ont été infectés avec ce virus aviaire en sont décédés. Alors vous me direz que le plus souvent, ce sont des décès qui sont survenus dans des pays un peu, pas sous-développés, mais reculés, comme tout ce qui est Asie du Sud-Est, Indonésie, Vietnam et autres, à distance de lieux où on peut se faire soigner et traiter, parce qu'on a des traitements pour ces virus. Mais bon, ça nous inquiétait. Donc depuis 2003, on a beaucoup travaillé en se disant, ce virus aviaire, à un moment ou à un autre, il va s'humaniser. Hein, il se transmet difficilement à l'homme, mais il se transmet beaucoup plus à l'homme que les précédents virus aviaires. Et puis, ça va basculer à un moment ou à un autre, et il va pouvoir atteindre l'homme. L'homme va pouvoir se contaminer l'un avec l'autre, chose qui n'a jamais été rapportée avec ce virus, et on aura droit à une pandémie. Bon, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe d'habitude ? Je vous ai dit qu'on peut avoir la grippe saisonnière. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut avoir la grippe chaque année. Okay. Mais il y a également des virus aviaires qui peuvent se transmettre d'oiseaux sauvages à oiseaux domestiques, et c'est responsable des grippes aviaires, des épis aussi. De façon tout à fait exceptionnelle, l'oiseau transmet l'homme, je vous l'ai dit, mais ça se voit de plus en plus avec la chinquenin. Un peu ennuyeux. Le cochon, le porc, lui, a la capacité de pouvoir être infecté à la fois par le virus aviaire et à la fois par le virus humain. Hein, c'est le seul animal qui est capable de présenter une grippe soit d'origine humaine, soit d'origine aviaire. Donc le porc peut très bien accepter, dans des régions où vous avez une espèce de configuration « je travaille avec des cochons et je travaille avec des volailles », peut très bien accepter le virus à un virus aviaire et un virus humain. Et donc, si vous avez la conjonction de « le cochon se fait infecter par un virus humain et en même temps par un virus aviaire, ce qui a été responsable de toutes les pandémies précédentes quasiment, plus un petit peu de virus porcin, mais ça on s'en fout, il y a une possibilité de recombinaison, c'est-à-dire que vous avez du matériel génétique, il y a 8 segments d'ARN sur le virus de la grippe, ça va se mélanger, vous allez avoir des segments d'origine porcine, d'origine humaine, d'origine aviaire, ça va donner naissance à un nouveau virus, et le cochon peut former ce nouveau virus, qui va être transmis à l'homme. Et s'il arrive à retransmettre ce virus à l'homme, et si c'est un nouveau virus que l'homme n'a jamais vu, pour l'homme n'a jamais été en contact, l'homme n'a jamais eu d'immunité, de vaccin, etc. Si ce virus peut se répliquer chez l'homme, et si ce virus peut être associé à une transmission interhumaine, comme dans une grippe saisonnière, on va aboutir à ce qu'on appelle à une pandémie. C'est-à-dire qu'on a un nouveau virus qui apparaît à la surface de la Terre, avec des morceaux génétiques du cochon, de l'homme, de l'oiseau, peu importe. Tout ça, ça donne un nouveau virus qui est capable de se multiplier chez l'homme. Et au siècle dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu 3 pandémies, dont un dont on parle actuellement, c'est le H1N1. Le H1N1, c'était un virus d'un oiseau qui s'est modifié, tac-tac, et qui s'est humanisé. Et puis il y a des hommes qui se sont infectés avec ce virus, et puis ils sont transmis petit à petit les uns aux autres, etc. Et vous voyez qu'il y a eu quand même 30 à 50, voire 100 millions de décès en 1919, c'était la grippe espagnole qui était liée à ce virus. Puis on a eu 2 autres pandémies un peu plus tard qui étaient liées à des mélanges de virus porcins et aviaires qui ont été transmis à l'homme, avec beaucoup moins de morts, il y a eu 1 million et 800 000. Et actuellement, on a donc un nouveau virus qui apparaît, qui est du H1N1, qui ressemble à celui de la grippe espagnole, ça s'appelle H1N1, simplement des caractéristiques antigéniques, mais si on étudie le génome du virus, c'est un peu différent. Et on se retrouve dans la même situation où on a un nouveau virus, l'homme n'a jamais été en contact avec ce virus, on se retrouve avec une atteinte d'adultes jeunes qui meurent pour certains rapidement, liées à la prolifération virale, et qui commence à s'étendre à la surface de la Terre. Bon. Est-ce qu'on est vraiment face à une pandémie ? Je crois qu'il faut temporiser aujourd'hui, je me trompe peut-être, mais j'espère pas, les choses. On nous parle de grippe porcine, c'est pas le bon terme du tout. Hein. C'est une grippe humaine, puisque c'est une grippe à transmission interhumaine. On n'a pas trouvé le virus chez un cochon pour l'instant. Donc c'est vraiment une grippe à transmission interhumaine. Pour l'instant, tous les cas proviennent du Mexique. Donc moi, je veux bien qu'on l'appelle grippe mexicaine, peu importe, ce sera peut-être rebaptisé à un autre moment. Est-ce que ça va être responsable d'une pandémie ? Tout le monde s'excite, tout le monde s'inquiète, tout le monde se téléphone en ce moment, etc., etc. Il y a plein de recherches sur le virus. Je n'en suis pas certain. Ça, c'est une diarrhée de peau qui éveille, qui est de lundi. Vous voyez, on parlait de grippe porcine à l'époque, mais on a changé de nom. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas certain du nombre de personnes infectées. Je crois qu'il n'y a eu qu'une vingtaine de décès réellement prouvés. Je dis bien réellement prouvé. Hein. Il y a une différence entre les 160 ou 200 personnes suspectes d'être décédées au Mexique de grippe et chez les nombres réels chez qui on a trouvé du virus. Je crois qu'hier ou avant-hier, on avait trouvé que 7 personnes, que chez 7 décès, pardon, du virus. Bon, est-ce que ça va être responsable ? C'est sûr que c'est responsable actuellement d'un certain nombre de cas répartis à la surface de la Terre. Je crois qu'il y a 13 pays ce soir qui rapportaient au moins un cas de ce type de grippe. À chaque fois, c'était des personnes qui avait introduit ce virus dans le pays en revenant du Mexique. J'ai pas eu la notion de transmission interhumaine du virus encore entre une personne qui a importé ce virus du Mexique dans un pays européen et une autre personne. Est-ce que ça va arriver ? Peut-être. Mais pour l'instant, on n'a eu que 7, 8, 9, 10 décès à la surface de la Terre, que moins de 1000 cas en tout cas. Tout le monde s'alarme parce qu'on a beaucoup travaillé dessus depuis de nombreuses années. Je pense qu'il faut un peu tempérer les choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un jour ou l'autre, il y aura une réelle pandémie et ça fera mal parce que c'est sûr que ça revient tous les 25, 30, 40 ans. Mais on a quand même préparé beaucoup de choses en France. On a tous les traitements, en plus les virus qui sont sensibles aux eltamivir et les zanamivir qu'on a actuellement. Donc je crois qu'il faut un peu tempérer les choses. Et de toute façon, s'il y a une chose à faire, ça sera, madame proviseur, je suis désolé, on fermera les écoles. Voilà, ça sera la meilleure des choses. On fermera pas le RER, on fermera les cinémas, les écoles, les théâtres. Et puis voilà, le reste de la vie fonctionnera comme au quotidien si réellement il y a une pandémie. Alors on monte d'un cran niveau alerte OMS de jour en jour. Voilà, je suis un peu moins, autant je suis tout pessimiste pour penser qu'il y aura une pandémie, autant je suis un peu plus optimiste actuellement sur les quelques données épidémiologiques que l'on peut avoir rapportées à l'épidémie dont on vous parle 6 fois par heure sur France Info actuellement depuis une semaine. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur la grippe ? Monsieur ?